Dans un instant, on parle d'un recueil de nouvelles qui porte une réflexion sur la condition humaine et les liens avec nos proches. La Suissesse Antoinette Richner est en plateau avec nous. Ce sera juste après le groupe Oh là là sur les radios francophones publiques.
La librairie francophone.
Moi, je suis juste quelqu'un qui s'amuse avec des bouts de mots, des bouts de phrases. Quand on prend un diapason, on le fait sonner comme ça, et ça donne une note. Moi, j'ai l'impression que le monde m'apparaît un peu comme ça, comme une espèce de résonance.
Emmanuel Queyrade.
Bonjour Antoinette Richner.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans la librairie. Vous avez publié Petite collection d'instants fossiles aux éditions de l'EB, un recueil de nouvelles qui témoigne de votre sens de l'observation. Vous décryptez avec distance les rapports entre les êtres. Alors ce sont des scènes de vie que vous figez dans l'instant, un peu comme au théâtre d'ailleurs.
Oui, il y a sûrement le côté instantané, enfin c'est comme au théâtre, dans l'instant que ça se passe. Et un côté aussi de gros plan, peut-être plus visuel, enfin aussi en relation avec le théâtre.
Et vous avez fait du théâtre d'ailleurs vous-même.
J'en écris en fait.
Oui,
déjà.
C'est ça. Alors Georges-Marc pour la France, oui. Vous avez une question justement sur la forme de ces nouvelles.
Bah oui, parce que moi je suis resté assez dubitatif sur le format. Ça m'a vraiment évoqué les premières gorgées de bière de Philippe Delerme, donc je ne sais pas si c'était vraiment ça. Mais surtout, je trouve que le regard que vous avez sur vos contemporains, qui est juste, ne permet pas, à l'opposé de ce que dit Emmanuel pour moi, la distanciation. Alors, est-ce que c'est ça que vous avez voulu ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez voulu plonger le lecteur dans la réalité de ce que vous décrivez ?
J'ai voulu attirer son attention sur certaines petites articulations que je considère comme des curiosités humaines ou des curiosités de vie. Après, c'est vrai que je pense... oui, il y a une sorte de distance, peut-être dans le choix de ne pas faire une narration au jeu ou dans le fait de ne pas peut-être laisser la possibilité de s'identifier très longuement ou d'entrer vraiment en empathie. Enfin, il y a quand même quelque chose un peu sous verre, peut-être.
Et puis, il n'y a pas de chute, surtout. Enfin, des chutes assez étranges. Vous nous laissez en suspens comme ça. Je pense à cette première nouvelle, avec cet homme qui a toujours été parasité par les idées de son père sur sa compagne. Et même depuis qu'il est mort, il a encore des doutes sur l'amour qu'il porte à cette femme. Et finalement, on le laisse comme cela au bord de la route. Il regarde ses enfants. Il est heureux de voir qu'il a réussi quelque chose. Mais il est en bord de route. Et vos personnages, ils sont souvent en bord de route.
Globalement, je pense qu'on peut dire effectivement que ces récits sont tranchés de façon assez nette, donc quelque chose d'un peu brut dans les bords. Mais dans ce cas-là, de la première nouvelle du livre, je pense qu'il y a quand même une orientation vers une libération du personnage qui est donnée en fait par les dernières lignes.
Oui, il a un peu d'air à la fin.
Il y a quelque chose qui se résout, entre guillemets.
À peu près, oui. Il réalise quelque chose en tout cas. Oui. Annick, pour la Belgique, vous voulez rebondir?
Mais oui, vous savez Emmanuel que lorsqu'un silence inopiné survient dans une conversation, eh bien on dit qu'un ange passe. Eh bien l'écriture d'Antoine Trichner m'a fait un petit peu penser à une loupe grossissante qui montrerait, bien, comme par surprise, l'ange déambulé ou l'ange passé. Vous parliez du fait qu'il n'y avait pas de chute, ben voilà. Mais parce que l'ange ne tombe pas peut-être. Ceci dit, pour revenir à ce que je voulais dire, non, j'ai trouvé que ces textes, on peut un peu les considérer comme des fragments minimalistes, comme ça, qui épinglent bien soit un sentiment, soit une impression, soit un doute. Donc un moment finalement où tout se joue sur très très peu de choses et en très peu de temps.
Effectivement, tout se joue sur très peu de choses, avec cet homme sacralisé, par exemple, un auteur célèbre nommé Richard le Monstre, qui revient plusieurs fois dans votre livre, qui porte bien son nom d'ailleurs. Il se retrouve à un moment confronté à sa condition d'humain fragile. Et c'est sans doute cette fragilité qui nous permet d'être décryptés à un moment. On peut se protéger, laisser planer un grand mystère, mais on se révèle toujours à un moment.
Pour moi, cette figure de le Monstre, qui est une grande personnalité lettrée, c'est un peu comme le poème de l'Albatros. Donc, il est dans les airs, il est magistral, il est dans son monde de pensée. Mais quand il descend parmi les hommes ou qu'il est à la cafétéria, qu'il doit comprendre comment fonctionne la machine, il emmène plus large. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'ambivalent parce que quand je vois, je ne sais pas, une rencontre publique avec Novarina ou avec André Markovitch, je suis toujours partagée entre une irritation parce que je vois qu'il capte tellement le public, j'ai l'impression qu'on est à la messe. Et en même temps... En même temps, bah, évidemment, je suis la première fascinée. Donc,
ouais, et en même temps, ce sont des êtres humains toujours. Et il y a comme cela cette ambivalence, cette apparence. On le voit dans d'autres nouvelles, avec par exemple ce jeune homme qui vient se confier à sa belle-mère. Il lui dit qu'il a vécu un moment sexuel exceptionnel avec sa copine. Et bon, c'est assez drôle, mais un peu glauque aussi, parce que c'est difficile de parler sexualité avec la femme de son père. Et vous montrez cela d'ailleurs, qu'on ne sait jamais vraiment quelle est la sexualité de ses proches. Plus on est proche de quelqu'un, moins on en sait sur sa sexualité.
C'est peut-être le problème de définir en fait. Il y a quelque chose dans le plaisir qui échappe complètement à la définition. Puis il y a le problème effectivement relationnel de pouvoir en discuter librement, de pouvoir en tout cas transmettre quelque chose dans ce domaine.
Et comment vous l'expliquez cela, qu'on en sait si peu sur nos proches dans ce domaine?
Ah mais je ne l'explique pas.
Vous ne voulez même pas savoir, c'est ça. Marie, pour la Suisse, que pensez-vous de ces instants fossiles?
Eh bien, je pense, Emmanuel, que c'est un livre qui a les qualités de ses défauts. Alors, Antoinette Richner, il est évident que vous maîtrisez l'art de suggérer, de capter ces petits instants où les choses basculent. C'est un peu là où je rejoins Annick. J'aime votre ton plutôt léger, plutôt vif, souvent drôle, mais ça coince quand même un petit peu parce que ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors certes, on peut se contenter de ces textes très courts et qui sont tout à fait charmants, mais moi, ce n'est pas mon cas. J'ai tendance à en demander un peu plus à un auteur. J'aime qu'il me transporte un peu plus, qu'il soit plus puissant dans ses mots. Les nouvelles sont assez inégales. Hein, on passe du plus réussi au nettement moins réussi. En tout cas, c'est un livre prometteur qui a aiguisé ma curiosité. Si vous écrivez autre chose, je vous lirai. Ça, vous pouvez en être sûr.
Maintenant, pour le Canada, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ce que vient de dire Marie?
Non, Emmanuel, je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve qu'Antoinette Richner fait preuve d'une connaissance encyclopédique de l'âme humaine pour arriver à aussi bien la cartographier avec un effet aussi saisissant et une économie de moyens, ma foi, monacale. Antoinette Richner, vous savez vraiment saisir l'instant ténu où un basculement à peine perceptible là, rend le vertige de l'instant. Et puis, quel travail sur la langue là, ça doit représenter. Vous arrivez à si bien choisir chacun des mots pour une fois parfois comique, parfois poétique, mais toujours percutant.
Merci.
Voilà, je vous le disais, le livre fait débat dans notre équipe. Effectivement, il y a des nouvelles saisissantes et la plus saisissante, c'est sans doute la dernière, intitulée « Une neige parfaite ». Le jeune Frédéric est un champion de ski de fond, entraîné par son père. Il participe à une compétition et lorsqu'il voit une femme l'encourager sur le bord de la piste, il s'arrête. Car il reconnaît sa mère.
Oui.
Sauf que sa mère, lui, il ne l'a pas vue depuis l'âge de 2 ans. Et quand on fait comme cela le deuil d'une personne absente, d'une mère qui vous a abandonné, le pire, c'est qu'elle revienne, Antoinette Richner?
Je pense que c'est la circonstance qui fait peut-être que cet enfant n'a pas envie de voir sa mère à ce moment-là, parce que c'est un moment particulier, donc il y a cette compétition de ski, et il a peut-être passé par tellement de moments où il a eu envie de la voir, qu'il y a une espèce d'écœurement ou un rejet qui se passe à ce moment-là. Qui sait, l'histoire ne le dit pas, peut-être que 5 ans après, il sera prêt à aller la retrouver.
Mais on a l'impression quand même dans votre histoire que les relations humaines sont suspendues à la présence, que c'est conditionnel cela. Sans présence physique, les liens s'effilochent.
Mais je pense qu'il était quand même en relation avec elle par la pensée pendant toute son enfance. Et que c'est de cette souffrance-là que naît le rejet. Donc je pense que ce n'est pas conditionné à la présence physique. J'ai l'impression qu'il était quand même en recherche, en tout cas, en recherche de sa mère.
Merci beaucoup, Antoinette Richner. Petite collection d'instants fossiles est publiée aux éditions de l'EB, un recueil de nouvelles qui réfléchit, sans en avoir l'air d'ailleurs, sur la condition humaine et sur notre rapport aux autres. Merci, Antoinette. À très bientôt.
C'est l'histoire en fait d'une petite fille.
C'est un album qui est raconté sous forme
un livre qui est magnifique.
Trois textes que l'on peut qualifier de longs poèmes en prose.